Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, évidemment, s'il y a un amoureux de l'automobile qui est connu par une grande majorité de
connu
Québécois...
Connu et apprécié hein, par le public.
J'ai une grande majorité de Québécois parce qu'il y a aussi du monde qui habite dans le West Island. c'est Michel Barrette qui est avec nous. Salut Michel.
Bonjour Michel, ça va bien?
Oui, bonjour. Vous êtes gentil. Merci de votre présentation, de dire que je suis apprécié. Je suis gentil.
Écoute, Michel, je peux pas faire autrement. On vient de parler avec Jacques Duval, évidemment, sur un bref parcours de l'histoire du guide de l'auto. Et s'il y a un gars pour qui la signification du guide de l'auto et pour qui ça a eu un impact dans sa vie, c'est bien toi. Alors, je voulais parler à quelqu'un qui avait connu le guide de l'auto depuis ses débuts et qui vit chaque jour avec un tatou transparent du guide de l'auto quelque part sur son corps. Là.
Oui, bien, le guide de l'auto, pour moi, d'avoir le premier guide en 67, j'ai 10 ans, et je ne sais pas qui de ma famille, un de mes oncles, avait réussi à se procurer ce guide-là. Moi, j'ai deux versions du guide. J'ai la version originale carton, et un jour, j'ai mis la main sur une version, genre, qui avait fait faire quelques... hardcover, là, des couverts rigides de
ah oui?
de
okay.
l'auto. J'en ai un exemplaire qui est bien, bien rare.
Okay.
Et rapidement, à 10 ans, c'était une curiosité. Et en 70, donc à 13 ans, là, c'est devenu une vraie folie. J'avais appris par cœur. Quand je dis par cœur, là, un jour, je connaissais Jacques Duval, j'ai dit, tu sais que Jacques, j'ai appris par cœur à l'âge de 13 ans le guide de l'auto 1970. Et là, je lui disais, ton BMW 2002, ça reste la meilleure voiture au monde. Je connaissais par cœur les temps chronométrés des tours de Mont-Tremblant, la puissance des moteurs, le zéro, tout.
Je tiens à souligner à l'ensemble de nos auditeurs que l'exemple de Michel Barrette, c'est une voiture allemande.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est quand même assez curieux.
C'est assez rare, oui.
Oui, la BMW 2002, oui. Alors, mais des années après, Jacques était retombé sur des vieux guides de l'auto.
Ouais.
Il m'avait dit, écoute, Michel, tu m'as déjà dit ça, je me souvenais pas, j'ai vérifié. Écoute, tu te souvenais vraiment de tout ça. Oui, pour moi, c'était le meilleur, c'était plus que la Bible. C'était vraiment la référence. Je lisais et relisais ces études à 13 ans.
Ouais.
À 13 ans, je l'ai perdu, malheureusement, parce que moi qui conserve tout, j'avais fait un guide des vélos. C'est-à-dire, tous mes chums, maintenant, il y avait un CCM, il y avait un Scrambler, il y avait un Western. J'avais fait les essais, freinage, accélération. Ben, ça dépendait qui était sur le vélo.
Mais dire. pas sur la piste à Tremblant, là.
Non, dans le cours d'école Goyer à Alma.
C'est ça.
ça m'a marqué. Et l'émission aussi, Prenez le volant à Radio-Canada.
Ouais.
L'image que je me fais, le souvenir que j'ai, c'est de voir mes ongles. À l'époque, il y avait trois grands. Il y avait GM, Ford et Chrysler. Puis là, mettons, là, cette semaine, on a fait la Torino 429. Mais là, t'avais les gars de Chrysler, mes ongles. Ah ouais, t'as encore fait Torino. La semaine d'après, c'était le... Ça, c'est pas le Challenger ou le Dodge Charger. Regarde comment est-ce qu'il marche, mon char. Alors, c'était un événement. Puis pour moi, comme je viens d'une famille de Gotchard, la référence enfance, Gotchard et Jacques Duval est automatique. Alors pour moi, le guide de l'auto, bien sûr, j'ai collectionné toute la série. Et j'affectionne particulièrement celle d'avant les années 80, avant ce que j'appelle le déclin de l'Empire américain automobile.
Ouais, ouais.
Mais bon, c'est un autre discours, là. Mais pour moi, c'est indissociable. Je pense qu'il y a une grosse part de mon amour, de ma passion pour l'automobile qui vient, d'abord et avant tout, de Jacques Duval. Et je dis pas ça parce qu'on parle de Jacques aujourd'hui ou du guide de l'auto. Je le dis parce que c'est vrai. Et je pense que je suis pas seul Québécois qui est tombé ou retombé en amour avec l'automobile.
Ben, je peux plaider coupable, moi aussi, à 20
coupable,
ans d'écart.
Là, oui, avec un autre 20 ans d'écart. Tu nous as amené sur un sujet que je veux aborder avec toi, Michel, en disant que dans les années 80, tu as, disons, peut-être abandonné ou laissé de côté l'automobile contemporaine. Qu'est-ce qui explique ça? Comment ça s'est fait naturellement?
Ben, ça s'est fait naturellement pour deux raisons. C'est-à-dire que on se mentira pas. Il y a différentes périodes. Mettons, si on ne parlait que d'automobile américaine, il y a bien sûr bon l'après-guerre. Quand je pense à l'après-guerre, moi, je pense surtout au hot rod, le phénomène des hot rodders.
Ouais.
Ensuite, quand je pense à mon père, mon grand-père, les premières voitures dans lesquelles j'ai roulé, c'est les voitures des années 50, puisque je suis né en 57. Alors, quand on est sorti de l'hôpital en 57, en avril, c'est dans une Dodge Custom Royale 56 que mon grand-père me ramenait à la maison. Alors, il a roulé pendant des années. Pour moi, quand je pense à mon enfance, mon adolescence, je me vois dans ces voitures-là, les premières voitures que mon père m'a laissé conduire, mon grand-père m'a laissé conduire, la Chrysler, la Dodge, le Pontiac 62. C'est pourquoi j'ai un amour spécial pour ça. Ensuite, quand les muscle cars sont arrivés, fin des années 60, mais là, tu sais, t'es adolescent au début des années 70, mais et ouais. Encore les rues sont encore pleines de ces Camaro 69, puis de Challenger, puis de Cuda. Alors, c'est la folie. Tu sais, je peux me vanter d'avoir vécu ça. Tu sais, tu vas à l'Hôtel Royal, puis le stationnement est rempli d'AMX, puis de Challenger, puis de Cuda, puis de Corvette 427. Et c'était pas des voitures de collection, c'était des voitures de tous les jours. Moi, j'ai eu une Camaro Z28 70 en 77, quand j'étais dans l'armée, je roulais ça l'hiver.
C'était une minone.
Ben, c'était pas une minoune, c'était ma voiture. Mais quand,
ouais. C'était pas une voiture de grande valeur, c'était une voiture usagée, là, simple. C'est ça.
Oui, mais en même temps, même si c'était ma voiture et je la roulais 12 mois par année, je la considérais pas comme une vieille voiture. C'était ma fierté quand même, mais fierté hiver comme été. Alors, c'est pourquoi, quand les années, la crise du pétrole, milieu des années 70, après ça, les assurances, les pare-chocs 5 000 à l'heure.
Ouais.
Et là, il y a un déclin qui fait que on essaie de s'ajuster. Puis moi, j'ai perdu un peu l'amour de ces voitures-là à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je conserve seulement les magazines de 1900, des années 50 ou s'ils existaient avant, jusqu'au début 80, mais rien d'autre.
Puis moi, Michel, juste pour te relancer, tu vois, quand j'étais au secondaire puis que j'allais à l'école, ben on avait des Ford Escort GT puis des Honda CRX puis des Toyota Corolla GTS. Et puis c'était ça notre réalité. Puis on trouvait que c'était cool à 115 chevaux. Alors,
comme quoi tout est relatif.
Mais je veux revenir sur le guide de l'auto parce que, évidemment, tu as découvert ça à l'écran. Tu as découvert ça avec Jacques Duval à la fin des années 60. Tu l'as suivi dans les années 70. Un point que j'ai souligné avec M. Duval, c'est le fait que non seulement il était pionnier en présentant une émission sur l'automobile et en lançant un livre sur l'automobile au Québec, mais il le faisait avec un français impeccable. Et j'imagine que ça a dû avoir un impact aussi un peu sur toi aujourd'hui, là.
Absolument, parce que maintenant, je suis content lorsqu'on fait l'effort. Parfois, je m'échappe. Je m'échappe surtout en spectacle. Parce qu'en spectacle, à cause du langage humoristique...
Ouais, c'est un personnage en spectacle, voilà.
Oui, c'est un personnage. On va avoir tendance à se dire plus Moffler. Puis
on me dit à l'oreille que Denise Bombardier n'est pas d'accord avec ton dernier propos. Mais c'est pas grave.
Mais en même temps, ça a réussi à inscrire quand même à quelque part, consciemment ou non, qui avait des termes francophones, français, pour décrire l'échappement, puis l'étrier, puis la bande de frein. Alors, oui, et pour lui, le français est important. C'est un homme d'une grande culture, il ne faut pas l'oublier.
Ouais.
C'est pas le gars de char. Tu sais, Jacques Duval, un jour, dans des bloopers d'une émission qu'on avait fait ensemble, il dit « Ouais, mon Moffler, alors, puis mon Jack, ça a été un choc de voir Jacques parler comme ça. J'ai réalisé, je fais, eh oui, Jacques ne parle pas comme ça. Jacques, c'est pas un rancher. Non, Jacques utilise un langage international. Ben,
d'autant plus qu'il y avait un français très radio-canadien à l'époque, là. Et oui. C'était dans la norme de présenter des émissions de télé de cette façon-là.
Oui, il faut se rappeler aussi qu'en dehors de sa passion pour l'automobile, à un certain moment, il a animé le Simadia du disque.
Ouais.
Vous vous souvenez où il descendait, où il cassait littéralement des micro-sillons qu'il appréciait pas, ou des 45 tours qu'il appréciait pas. Alors oui, sa culture radio-canadienne, sa grande culture personnelle a fait qu'il nous a livré à l'écrit comme au parler un français parfait.
D'après toi, est-ce que tu penses qu'il aurait cassé le disque de Gilles Villeneuve? De Jacques Villeneuve, pardon.
Oui. Sinon, j'aurais cassé moi-même.
Et moi, je peux me vanter d'avoir une copie de ce disque à la maison.
Une des très rares copies.
Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience à l'écran avec Jacques Duval, parce qu'évidemment, vous avez relancé Prenez le volant à la fin des années 90. Comment c'était de te retrouver?
Je vais même vous avouer quelque chose qui a jamais été dit. sur la finale de cette émission-là.
Okay.
Alors, quand on me... D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques, de le connaître, que ça devienne mon ami, et ensuite le projet de refaire Prenez le volant. Imaginez, là, le flow là, de 13 ans, à qui un jour on dit, là, si on parle des fin 80, donc fin trentaine, même pas fin trentaine, début trentaine, c'est en quelle année, 90? J'ai donc 33 ans, tabarouette. Dans cette période-là, à qui on dit un jour, tu pourrais co-animer Prenez le volant en compagnie de Jacques Duval. Tu te réveilles le lendemain, et tu dis, ben, j'ai rêvé ça, et on te redit, non, on était sérieux, t'as pas fait un... Alors, ça a été pour moi un rêve.
Qui est devenu une réalité, là.
Une réalité. On l'a co-animé pendant une saison. On a eu du fun, mais du fun, parce que Jacques avait compris une chose, le sens du spectacle. C'est-à-dire que j'avais demandé à ma mère qui venait savoir des voitures, « Mère, pourquoi tu regardes ça? Parce que je suis dans l'émission. » Elle dit non, parce que vous allez vous tuer. Comment ça? Ben, tu n'as pas de bon sens ce que vous faites. Parce qu'on roulait à deux pouces du pare-choc, puis on faisait des dérapages. Ceux qui se souviendront de l'émission, ouais, se souviendront de l'essai d'une Boxster, où, écoutez bien, la Boxster avait le système d'anti-dérapage, OK? Alors, logiquement, ce que tu fais, c'est que tu roules la voiture en dérapant, tu sais, sans antidérapage. Et là, pour montrer l'efficacité du système, à un moment donné, tu dis, mettons, on va mettre l'antidérapage pour voir qu'on peut brasser la voiture sans perdre de contrôle. Ben, nous, on a fait le contraire. On est à Saner, ouvert à grandeur, je suis au volant, et en plein virage, Jacques dit, maintenant, on va enlever l'antidérapage. Écoute, je vais me vanter, c'est vraiment la survie qui m'a fait conserver le contrôle. J'ai passé 100 pelouses en arrêt d'un estrade, en tout cas. Mais on a failli se planter. Mais tout ça, ça va être un jour...
Et tout ça était filmé, là.
Tout ça était filmé, c'était dans l'émission. Un jour, on a fait croire qu'on voulait faire l'essai d'une limousine. On a appelé une compagnie de limousine, on voulait montrer la commodité, le confort, l'espace. Alors, le monsieur nous a envoyé son meilleur chauffeur, un cas assez baraqué d'ailleurs. On dit, écoutez, monsieur, merci beaucoup. Et là, on est parti sur la piste à Saner à déraper, puis à faire toutes sortes de niaiseries.
À faire de la drift avec un temps de cœur allongé. Là.
Exactement.
Qui est reconnu pour sa rigidité.
Ben ouais, oui, écoutez, les bouteilles, ils revolaient partout. Quand c'était Jacques au volant, moi, j'en volais dans les fenêtres partout. Quand c'était moi au volant, il revolait partout. Le gars a appelé son patron. Son patron t'a maudit. On est obligé de laisser la limousine à l'autre bout de la piste parce que le gars voulait nous planter. On a vraiment laissé la limousine devant les portes. On est pas fait courir parce qu'il nous courait après pour nous battre. Alors, c'était comme ça pendant toute la saison. On a même eu l'occasion de piloter des Formule 1. On parle bien de 1990, 88, 89.
En fait, je pense que c'est 98-99, quelque chose de même.
Aussi jeune, plus récent que ça.
Ben, okay, là, si tu me parles d'une Porsche Boxster, on est là, à la fin des années 90.
T'as raison. Alors, c'est pas 88, c'est 98. Ouais. On est allé à l'école Race Inc., où il y avait des Arrows, toutes récentes, des Formule 1. Alors, on a l'occasion, dans la même journée, de conduire une BMW, une Formule Renault, une Formule 3000 et une Formule 1.
Alors, c'est plein de journées comme ça, là.
Ben là, en compagnie de Jacques Duval. Je pourrais vous tenir là-dessus jusqu'à demain matin. C'était pour moi un immense, immense, immense plaisir de partager ces journées-là, la piste, avec tout un pilote, trompez-vous pas, avant qu'on refasse la piste de Tremblant.
Puis moi, je Jacques me suis...
à l'époque.
Ouais.
Oui.
Non, moi, je Jacques me suis... Excuse-moi, vas-y.
Jacques, à l'époque, faisait ses essais à Tremblant, version les arbres sont proches, les garde-fous sont à peu près inexistants. Bon. Alors, un jour, on se retrouve à Tremblant, pas dans le cadre de l'émission, mais dans le cadre d'une autre rencontre automobile, je ne me souviens pas quoi.
Okay.
Et j'ai fait 10 tours de piste dans une Porsche 911 avec Jacques Duval au volant, mais sur la piste dangereuse, parce qu'elle était extrêmement dangereuse. Ça prenait Jacques Duval pour rouler aussi vite sur cette piste-là. Aujourd'hui, il n'y a pas un pilote automobile, pas un qui oserait faire un tour de piste sur cette vieille piste-là. Ça prouvait à quel point c'était autre chose et à quel point il risquait sa vie à chaque semaine dans la version originale de Prenez le volant.
En même temps, il l'avait testé maintes et maintes fois, oui. Ce circuit-là. Là. Moi, je me souviens, souvenir personnel, je me souviens de Prenez le volant et d'un épisode particulier où vous aviez essayé un Hummer. Et on sait...
Était malmené, le pauvre.
Non, mais on sait à quel point Jacques Duval détestait les camions, n'aimait pas faire du 4x4, de la conduite hors route. Et là, il était pas dans sa zone de confort. Et vous vous étiez retrouvé les quatre roues dans le vide avec le centre du plancher à côté au sol sur une butte. Bon. C'était génial, ça.
Je pensais que j'allais profiter de ça pour me niaiser. Parce que celui qui est resté pris, c'est moi. Jacques est mort de rire. J'ai dit... Et là, il dit, ouais, le gars du Coutumi, il a été levé d'un code, des 4x4, là, il m'écœurait avec ça. J'ai dit, au moins, les caméras, j'ai dit, au moins, les caméras sont loin, parce que les caméramans étaient loin.
Ouais.
Les caméras sont loin. Là, il pointe les caméras intérieures. Regarde.
Ouais, ouais. Je l'entends encore rire. Je me souviens de ça comme si c'était hier. C'était absolument génial. Sur un autre son de cloche, Michel, t'es toujours, on va en profiter pour en parler un petit peu, t'es toujours impliqué dans la coupe Nissan Micra et ton fils fait de belles performances là-dedans. Vous vous situez où? Là? Quels sont vos plans pour la prochaine saison?
Ben, actuellement, je vais parler un peu de Raphaël Lessard, mais avec des budgets différents. On est à la recherche. Il est à la recherche parce que, au début, on était trois voitures, Martin, Nicolas et moi.
Ouais.
Ensuite, Martin a couru la deuxième année. Il roulait très, très bien aussi. Je te dirais qu'il roulait peut-être aussi bien que Nicolas, mais parce qu'il faisait quand même moins de pistes que Nicolas. Nicolas a fait d'excellentes performances. On se souviendra de sa première place à Trois-Rivières, qui a été finalement rétrogradée à la quatrième parce qu'il y avait une touchette.
Ouais.
Quelques tours avant bon, mais quand même, c'était un cas pour finir le podium. Et moi, ma meilleure performance en Nissan Micra, c'était à Trois-Rivières sous la pluie, où j'ai terminé 12e sur 25 ou 26 voitures. Ça fait qu'il y avait quand même bien des flous en arrière de moi.
Ouais.
Alors, à mon âge, j'étais très content. Alors, cette année, on se concentre pour la saison 2021 sur Nicolas. Martin est rendu père de famille, sa petite fille, son travail. Ça fait que s'il peut participer à une course ou deux, tant mieux. Moi, je ferai les courses québécoises. Et Nicolas, si tout va bien, si les commentaires se pointent, il refera une saison complète. Et il a toujours un couteau entre les dents. Il veut absolument remporter la série. Il dit pas, je ne sortirai pas de Micra tant que ce ne sera pas moi qui a remporté la série.
Et du point de vue de la collection de voitures anciennes, est-ce qu'il y a eu des ajouts dans les derniers mois? Ça vient piquer ma curiosité pas mal.
Ben, disons qu'il y a eu des changements de vie qui ont fait qu'au lieu d'ajouts, j'ai dû faire des retraits parce que, sans rentrer dans le détail, la COVID m'a quand même fait perdre ma participation dans un hôtel. Alors, financièrement, ça n'a pas été la meilleure année à ce niveau-là. Au niveau du travail non plus, parce que vous devinez qu'on fait pas de spectacle. Et comme j'ai aménagé dans la Beauce, la limite d'espace que j'ai ici fait que au lieu d'avoir 22, 23 voitures, je vais terminer avec une douzaine, ce qui est déjà beaucoup. Surtout que moi, mes voitures, c'est des voitures que je roule. C'est des voitures, c'est pas des voitures qui sont dans un musée, c'est pas des voitures qui dorment dans le garde-robe, c'est tous des drivers. Alors, déjà à 12 au Québec, là, c'est beaucoup parce qu'on a quand même juste l'été pour les rouler. J'ai gardé mon top 12, maintenant.
Ton top 12. Donc, t'as pas de nouvelles acquisitions. Je sais que tu t'es débarrassé de quelques-unes de tes voitures parce qu'il y a quelqu'un tout près de chez moi qui a acheté une des tiennes et que j'ai vu passer une Corvette 1965 bleue, là. Alors, c'est une 65?
64 bleue, oui.
64, bon. Ben, je l'ai vu passer à quelques reprises, puis ma mâchoire me décrochait toutes les fois quand il passait devant ma maison.
J'avais eu la chance de l'avoir à Granby il y a quelques années, si je me trompe
pas. Après, j'ai eu vent que c'était ta voiture. Alors, j'ai fait, bon, OK.
Ouais, le cœur me débat parce que c'est comme si tu me parlais d'une ancienne blonde, tu sais.
Ouais.
C'est comme, ouais. Mais en même temps...
Et lesquelles on ne laissera jamais aller?
Ben, lesquelles on ne laissera jamais aller? C'est drôle, hein? Vous allez voir... Quand la Corvette était dans le garage à côté de ma Camaro 69, j'ai fait l'exercice, je ne sais plus combien de fois, avant de décider laquelle des deux j'allais vendre. Quand il entrait des Gottschalk, des vrais, là, il a 69 Camaro, la Camaro, je dis, la Corvette, c'est une belle voiture, vraiment une belle voiture. Puis là, j'essaie de comprendre. Ce qu'on m'expliquait dans le monde automobile dans lequel j'évolue, c'est que tout le monde a des souvenirs de la Camaro. Mais la Corvette, c'était quand même une voiture exclusive.
Oui, c'était moins accessible, bien sûr.
Donc, il y a moins de souvenirs associés à cette voiture-là à l'époque.
Et voilà. Et en plus, déjà à l'époque, c'était pas les voitures qu'on brassait. Quelqu'un qui possédait une Corvette en 64, ben c'était une voiture classique, c'était une belle voiture sport, mais c'était pas une voiture avec laquelle on faisait des 360 dans la cour de l'aréna, tu sais. Alors que la Camaro 69, oui. Alors, tout le monde a un souvenir parce qu'ils en ont possédé. Mon frère d'un un, ma soeur d'un un, mon oncle d'un un. Tout le monde a un... Alors que c'est pour ça qu'il y avait un attachement, disons, plus direct et personnel avec la Camaro. C'est pour ça que j'ai choisi de conserver la Camaro 69 et de laisser aller la Corvette.
Bon. Triste, triste histoire.
Triste dilemme.
Fait que, Michel, ben, au plaisir de te revoir sur les planches, de te revoir un peu partout quand ce damné COVID-là sera passé, et au plaisir de reparler voiture avec toi dans un avenir rapproché. Et je te souhaite un joyeux temps des fêtes.
Merci beaucoup, Michel.
Vous êtes trop gentil. Je retourne m'asseoir dans mes voitures.